Vivre FM, podcast.
11h midi sur Vivre FM,
la vie des entreprises.
Annelies Farcoa.
AGFIP est l'association qui assure la gestion du fonds de développement de l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Alors quel est le rôle de l'AGFIP? À quel moment? Pour quelles raisons? Et qui peut la solliciter? Autant de questions que nous allons aborder ce matin dans la vie des entreprises, dans le nouveau numéro de En direct avec l'AGFIP que vous retrouvez à présent tous les seconds lundis de chaque mois. Et ce matin, nous parlons des créations d'activités pour les personnes en situation de handicap. Alors, sachez-le, plus de 1800 créations d'activités par des personnes handicapées ont été financées par l'AGFIP au premier semestre 2015. Anne Tourlaire, vous êtes directeur des offres de services. Merci d'être avec nous ce matin pour aborder ce thème de la création d'une entreprise, nous expliquer qui sont les bénéficiaires d'aide financière et d'un accompagnement individualisé par des prestataires spécialisés. Merci à vous qui nous écoutez. Très belle journée à tous sur Vivre FM.
La vie des entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble pendant une petite heure en compagnie ce matin d'Anne Tourlière, directeur de l'offre de services à l'AGFIP. Alors Anne Tourlière, avant qu'on entre dans le vif du sujet qui est ce matin la création d'entreprise pour les personnes en situation de handicap, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales missions de l'AGFIP ?
Oui, bien sûr. Bonjour. Alors l'AGFIP, eh bien, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc ces missions sont un peu dans son titre, c'est-à-dire que nous avons à favoriser le maintien et l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Pour ça, on dispose d'une collecte qui est le résultat de la participation des entreprises au titre de leur obligation d'emploi, que nous répartissons en fonctionnement pour un certain nombre d'organismes qui favorisent l'insertion ou le maintien des personnes handicapées, ou en aide directe, dont la création d'activités.
Alors l'AGFIP existe depuis combien de temps ?
Alors l'AGFIP est née de la loi de 1987, donc elle a fêté déjà ses 25 ans, largement. Elle a réellement commencé à fonctionner en 1990, le temps que la loi prenne son effet, que la première collecte se mette en route, etc. Voilà.
Est-ce que, j'imagine qu'en 25 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même des évolutions positives du côté des entreprises? Est-ce que le regard des managers change? Ou est-ce que ça reste quand même toujours compliqué d'embaucher et de maintenir dans l'emploi des personnes en situation de handicap?
Alors, je pense vraiment que le regard des entreprises a changé. Je pense que c'est autant dû à l'action de l'AGFIP et de toutes les associations qui œuvrent sur ce champ, hein, et qui sont nombreuses, qu'à la volonté des pouvoirs publics, mais aussi qu'à l'environnement, finalement, qui favorise la diversité, qui met en avant ce qu'on appelle le RSE, etc. Donc il y a une ambiance qui est porteuse, mais c'est vrai que ça reste compliqué. Ça reste compliqué d'embaucher des personnes handicapées, parce que c'est un public qui est un petit peu moins bien formé que le tout public et qui est un public également plus âgé d'une manière générale. C'est ce qu'on peut dire en majorité. Donc ce qui fait que les demandeurs d'emploi handicapés, qui sont quand même près d'un demi-million, sont des gens qui restent plus longtemps au chômage que le tout public.
Alors, on a l'impression quand même que depuis quelques années, la prise en compte des handicaps moteurs et même des handicaps sensoriels est assez bien faite dans les entreprises. Ça reste compliqué concernant les handicaps psychiques.
Alors, c'est vrai que le handicap psychique, par définition, il est très difficile à compenser, si je puis dire. Hein. On ne peut pas faire d'aménagement. Si on a un handicap moteur, on peut toujours acheter un clavier main gauche, un fauteuil ergonomique. Le handicap psychique, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que l'environnement de travail soit un petit peu prévenu. Il faut que la personne elle-même soit bien stabilisée. Il faut que, enfin, c'est vraiment un ensemble de choses. On parle beaucoup de l'emploi accompagné pour le handicap psychique. Il y a de premières expérimentations. Je pense que l'AGFIP va travailler sur le sujet. Pour le moment, ça reste effectivement compliqué. Même si les personnes handicapées psychiques sont globalement mieux formées que les autres, sont des meilleurs niveaux de formation. En revanche, la réussite d'une insertion, c'est en général une période très courte. Donc on voit vraiment qu'il y a un effort à faire sur la durée, sur le...
Voilà. Un effort de sensibilisation et de formation des managers dans ce domaine.
entre autres.
Alors, l'AGFIP apporte des aides aux entreprises dans différents domaines afin de les aider à mieux intégrer et à maintenir dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et l'AGFIP propose également des aides aux personnes qui souhaitent créer leur entreprise. Madame Tourlière, la France est-elle un pays d'entrepreneurs ?
Il y a un peu plus de 500 000 créations d'activités par an.
Ah oui, c'est quand même
on
énorme.
On peut considérer que c'est un pays d'entrepreneurs.
Oui.
Après, il est vrai que la grande majorité de ces créations sont des micro-entreprises. Mmh. Hein. C'est le fameux statut d'auto-entrepreneur qui a généré beaucoup de vocations. Dans une période de difficulté pour trouver un emploi salarié, beaucoup de... notamment de personnes au-delà de 45 ans, se rabattent sur la création d'activités. Mais c'est quand même un secteur, pour les personnes handicapées, qui est relativement porteur. La GFIP en finance environ 3400 par an. Enfin, en tout cas, en 2016, c'est l'objectif qu'on a. Ce qui n'est pas négligeable,
ben
parce
oui.
que... voilà, et en plus, on a un taux de pérennité qui est plutôt... pas mauvais, avec 70% environ à 3 ans de maintien.
Ce qui est un peu plus élevé
peu plus élevé que le tout public. Alors après, c'est très variable. On est dans de la micro-entreprise, généralement. Bon, il est difficile, hasardeux à mon avis, de faire des comparaisons un peu avec le tout public un peu trop poussé.
Alors, quelles sont les principales motivations des personnes qui créent leur entreprise ? Est-ce que ce sont les mêmes que pour les personnes valides ou est-ce que ça vient d'une difficulté plus importante à trouver un emploi ?
Alors, je pense que ça vient d'une difficulté plus importante à trouver un emploi parce que quand on a un handicap en général acquis, hein, on a des lombalgies, on a des handicaps qu'on acquiert au cours de sa vie...
80%
des cas.
On a du mal
à renoncer voilà, à ce qu'on sait faire. Et donc, il est fréquent, c'est d'ailleurs un problème, mais il est fréquent que, je ne sais pas moi, disons un maçon qui a des problèmes d'allergie au ciment ou une coiffeuse qui a des problèmes d'allergie au colorant, qu'est-ce qu'elle sait faire ? Eh bien, elle sait faire de la coiffure, donc elle veut ouvrir son salon de coiffure. Donc, il y a une démarche un petit peu de deuil à faire, mais en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que en général, les personnes handicapées sont extrêmement volontaires dans leur envie de créer, et parce que c'est une voie aussi de reconnaissance.
Et c'est pour ça que peut-être ils tiennent mieux leur entreprise et ils sont moins facilement en situation d'échec que les personnes ordinaires.
Ils ont aussi ils vivent aussi des situations d'échec parce que quelquefois, malheureusement, ils sont rattrapés aussi par le handicap. Parce que la détermination, la volonté ne suffit pas toujours. Quelqu'un qui est très fatigable, s'il est obligé de travailler 18 heures par jour, évidemment, on va à l'échec.
Et de faire un peu tout, parce qu'on le sait que quand on est créateur d'entreprise, il faut être un peu couteau suisse, il faut savoir tout faire.
Il faut être vraiment couteau suisse, c'est-à-dire qu'il faut travailler à son activité les jours de la semaine et le week-end, il faut travailler pour l'administration.
Ça fait envie. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises raisons de créer une entreprise ? Est-ce que le fait de ne pas trouver de boulot, c'est une bonne raison de créer son entreprise ?
Alors, je ne sais pas si c'est une bonne raison, mais en tout cas, c'est une motivation forte. C'est une motivation forte et je pense que quand on crée son activité, on peut dire peut-être plutôt pour
oui.
le type d'entreprise qu'en tout cas nous, on est amené à financer en majorité, on y trouve finalement une certaine révélation de soi-même. D'abord, on trouve des ressources en soi qu'on n'imaginait pas. En général, on a appris quelques notions de financement, de gestion, etc., et puis en même temps, c'est son bien, son...
Oui.
Voilà, et donc je pense que les gens sont extrêmement motivés et pour de bonnes raisons, à mon avis. Alors après, la difficulté, c'est que l'entreprise réussisse ou l'activité réussisse à générer suffisamment de revenus pour que la personne ne soit pas obligée rapidement de renoncer. Et c'est souvent la difficulté avec les personnes qui veulent créer une activité avec très peu de fonds propres, évidemment. C'est difficile. Même si on est dans de la micro-activité, il faut avoir intégré dès le départ cette difficulté qu'il va y avoir. C'est pour ça que la GFIP, dans son offre, procède en plusieurs temps. Hein. Après l'orientation des personnes, on les invite à travailler avec un expert que nous finançons, qui va les accompagner dans leur création de projet, qui va éventuellement les faire renoncer, d'ailleurs, à leur création de projet, parce que c'est pas possible. Alors, avec quelquefois des prestations complémentaires que peut financer la GFIP sur l'adéquation entre l'homme et son projet. C'est particulièrement difficile pour les personnes handicapées, quelquefois. Voilà, donc cet accompagnement, il vise à aider les personnes sur tous les plans, hein, financiers, gestion, social, juridique, à créer, à aboutir leur projet. Et une fois que le projet est bien mûr, bien abouti, alors on peut présenter un dossier de financement à la GFIP, avoir trouvé en général des cofinancements d'ailleurs, parce que ça ne suffit pas toujours.
Alors effectivement, c'est très important d'être entouré quand on crée son entreprise, aussi bien par son entourage, par sa famille, par ses amis, d'être soutenu et d'être entouré par des organismes, parce que plus on fait de formation, mieux on s'informe et plus on a de chances de réussir cette création d'entreprise. Anne Tourlière, vous restez bien avec nous dans la suite de l'émission. On continuera à parler de la façon dont la GFIP peut aider les personnes en situation de handicap qui souhaitent monter leur entreprise. Donc vous restez bien avec nous, à tout de suite.
La vie des entreprises, jusqu'à midi sur Vivre FM, Alice Farcoa.
Dans quelques minutes, vous retrouverez votre espace coaching, les 3 minutes pour l'emploi. Mais pour l'instant, nous sommes de retour dans la vie des entreprises, l'émission spéciale en direct avec la GFIP que nous vous proposons désormais chaque second lundi du mois. Et nous sommes toujours en compagnie de Anne Tourlière, directeur de l'offre de services à la GFIP. Alors, quand on souhaite créer son entreprise et qu'on est en situation de handicap, Madame Tourlière, quelles sont les démarches à suivre au tout début?
Alors, au tout début, il faut s'adresser à Pôle emploi, à une mission locale si on est jeune, très jeune, ou à Pôle emploi. Et un de ces trois opérateurs qui sont spécialisés va vous orienter. D'abord, parler un peu avec vous de votre projet, vous expliquer un certain nombre de choses, et puis vous orienter vers un expert financé par la GFIP qui, lui, va vous accompagner dans la création de votre projet.
Et quand on n'a pas d'idée? Quand on a envie de créer son, quand on a envie d'être son propre patron, quand on a envie de créer son activité, mais on ne sait pas tellement quoi faire, est-ce que le conseiller est capable de, c'est aussi son rôle de décrypter les possibilités.
Ça fait partie de son rôle. Alors il n'ira pas aussi loin que l'accompagnateur spécialisé dans la création d'activité, mais en tout cas il va décanter les choses, il va déjà voir si effectivement c'est jouable, si ça vaut la peine de continuer dans cette voie-là. Le Pôle emploi a lui-même un financement spécifique pour les personnes, pour les
créateurs
d'emploi,
oui.
Les créateurs d'activités. Les Cap emploi sont spécialisés, donc ils vont aider les personnes handicapées plus particulièrement. Donc eux sont rodés à analyser la demande, éventuellement faire le deuil du métier, enfin vraiment à aider la personne à déterminer au mieux sa volonté de création d'activité. Et les missions locales, bon, c'est un peu la même chose pour le public jeune. Après, une fois que la personne est orientée donc vers un expert, l'expert, lui, va prendre en charge d'une manière plus fine la demande de la personne. C'est-à-dire qu'il va, il va le faire parler, voir quel est le degré de mûrissement de son projet, voir si oui ou non ça paraît compatible avec son handicap.
Oui.
Éventuellement, ce que je vous disais, vérifier ce point-là, avec l'aide d'une prestation financée par la GFIP, qu'on appelle prestation homme-projet. Donc vraiment vérifier l'adéquation de la personne au regard de son handicap avec le projet de création qu'il a. Donc l'organisme accompagnateur, son premier rôle, c'est vraiment de faire accoucher la personne de sa demande et voir si elle peut continuer. Sinon, elle va réorienter la personne vers l'organisme Cap emploi, Pôle emploi qu'il a orienté.
Oui, parce que c'est vrai que quand on se dit bah, « tiens, je vais créer ma propre activité », on ne se rend pas compte au départ du degré d'implication que cela demande.
On ne se rend pas compte de la difficulté, de l'engagement, de la dureté quelquefois de la situation à gérer. Donc il y a vraiment plein de choses à bien assimiler, à bien digérer au départ avant de se dire « je continue vraiment en toute connaissance de cause ». Nous, c'est ce qu'on essaye de faire pour nos personnes. Après, l'accompagnateur, une fois que ce point est passé, il va aider la personne vraiment à monter son projet. Alors, je ne sais pas, moi, si elle a l'idée d'un camion pizza, il va lui faire...
C'est un exemple assez courant.
Il va essayer de lui dire, de le faire réfléchir à quel endroit, combien de jours par semaine, de lui dire quel est le statut que vous voulez avoir, est-ce que vous allez travailler tout seul, avec votre femme, avec... vraiment d'aller au bout du projet en essayant de chiffrer, de trouver un statut juridique, de lui donner des conseils pour l'organisation, pour le côté... Tous les choses administratives que la personne va avoir à faire pour créer son activité, etc. Donc l'accompagner dans ses démarches, faire le plan de financement avec lui, dire alors vous avez un petit apport, vous pouvez demander un crédit, vous avez la GFIP qui peut vous donner. Voilà, et tout ça mis bout à bout, faire le plan de financement, demander un financement à la GFIP. En donnant un avis sur la viabilité, sur les chances de l'entreprise.
Et effectivement, si on prend l'exemple du camion pizza, savoir qu'on est peut-être censé rester debout plusieurs heures par jour, votre handicap permet cette difficulté-là? Peut-être voir avec le médecin, avec le médecin du travail, il y a des liens?
Pas avec le médecin du travail, puisque le médecin du travail, c'est pour les entreprises, oui. Mais à ce stade, je vous le disais, nous finançons une prestation de type médical sur l'adéquation homme-projet, et puis éventuellement discuter avec le médecin traitant, enfin vraiment prendre toutes les précautions pour que la personne n'aille pas à un échec. Mmh. Ça serait vraiment dommageable. Donc une fois que ces difficultés ou ces faits sont acquis, qu'on est en toute connaissance de cause, que les chiffres sont posés, très important de poser les choses, parce que quelquefois on a une idée, mais il faut vraiment poser les choses, dire vous allez avoir, si c'est un camion pizza, 300 € de mazout par exemple par mois, enfin bon, vraiment des choses très précises, d'amener les gens à bien, et puis de monter le projet, c'est-à-dire de dire il vous faut tant d'argent, il vous faut acheter le camion, ça coûte tant, donc vraiment, et une fois que le montage financier est fait, présenter le dossier à la GFIP, avoir éventuellement trouvé des cofinancements, soit dans des financeurs de micro-entreprises type France Active, ou bien alors auprès d'une banque, tout simplement.
Et comment on présente un dossier à la GFIP? Ça se passe par courrier? Ou il y a un jury?
Non, pas du tout. Il y a un dossier à remplir, oui. Avec des pièces à fournir, et l'accompagnateur, l'expert, va aider la personne à monter son dossier de ce point de vue-là aussi. C'est ce qu'on lui demande.
Donc tout se fait en amont, c'est-à-dire que
on est complètement en amont de la création, parce que la GFIP ne finance pas rétroactivement. Oui. Il faut vraiment faire les choses avant. Et puis, on est aussi en amont de la décision.
Alors, on fait un petit détour vers les 3 minutes pour l'emploi, notre espace coaching, une question, une réponse de notre coach. Et on se retrouve juste après pour continuer à parler de la façon dont la GFIP peut aider les personnes qui souhaitent créer leur entreprise et qui sont en situation de handicap. À tout de suite. Sophie de Saint-Denis nous a contacté il y a quelques jours. Elle est bénéficiaire de l'allocation d'adultes handicapés, l'AAH, qui est versée par la CAF, et souhaite devenir auto-entrepreneur. On le sait, au début, quand on crée son entreprise, on ne gagne pas ou peu sa vie. Et Sophie craint de perdre cette allocation et de se retrouver sans rien. Frédéric Lotto, vous êtes le producteur d'Andy Today. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Sophie?
Alors, il faut lui répondre qu'elle doit s'adresser à l'Agence pour la création d'entreprises, à l'aide pour la création d'entreprises, qui va justement l'aiguiller de manière très concrète sur l'équilibre de ses revenus. En attendant d'avoir de vrais revenus générés par son auto-entreprise, effectivement, il va falloir qu'elle continue de vivre. Et si elle ne vit pas, son entreprise ne vivra pas. Donc, c'est vraiment très, très important. Et ce genre de cas est parfaitement géré en fait, par ces organismes-là, qui vont assurer soit la transition entre organismes pour faire en sorte que l'un ne s'arrête pas avant que l'autre ne démarre, et puis qui vont peut-être également lui permettre d'avoir un petit tapis financier à se mettre sous les pieds à travers une simple aide ou une avance ou un prêt à taux zéro de quelques milliers d'euros. Ça peut aller jusqu'à 10-15 000 euros qui lui permettront d'envisager sereinement le démarrage de son entreprise. Parce qu'effectivement, c'est la période la plus cruciale. Si l'entreprise démarre mal, elle n'ira pas bien derrière.
Parce que l'AAH est versée uniquement aux personnes qui ne travaillent pas.
Oui, alors là, c'est pas une, la question de, du statut d'auto-entrepreneur, c'est pas un, un statut de salarié. Donc, on peut pas être assimilé comme un travailleur standard. Du coup, il est probable qu'elle garde cette aide. Maintenant, à un moment, il faut pas se leurrer, ce statut va correspondre aussi à un versement d'argent pour elle. Et à ce moment-là, elle sera réellement assimilée comme, comme quelqu'un de salarié ou équivalent salarié. Et effectivement, cette aide risque de sauter à ce moment-là. Mais ça voudra dire qu'elle aura touché de l'argent.
Et est-ce qu'une personne en situation de handicap qui souhaite créer son entreprise peut bénéficier d'aides financières par divers organismes comme la GFIP, par exemple ?
Oui, tout à fait. Notamment à travers l'aide pour la création d'entreprise. Et ça évolue, je crois, entre 6 et 15 000 euros qui peuvent être donnés dans le cadre de l'aide à la création de cette entreprise.
Madame Tourlière, puisque j'ai la chance de vous avoir en face de moi, une petite précision par rapport à ce que vient de nous dire notre coach, c'est pas tout à fait ce montant-là, hein, ce que la GFI propose.
Alors non, votre coach est un peu...
Généreux.
Si je peux me permettre, il est un peu généreux, malheureusement. La subvention que verse la GFI, alors, qui est un don, hein, c'est une vraie subvention, est de 5 000 euros. Elle est de 5 000 euros et on la verse à condition que la personne ait un apport personnel de 1 500 euros.
Une fois que le dossier, le fameux dossier a été accepté.
Complètement renseigné, rempli et que le projet est bien abouti.
Alors on fait une nouvelle pause en musique et on se retrouve juste après, toujours en compagnie de Anne Tourlière pour parler de la façon dont la GFI peut aider les personnes en situation de handicap qui souhaitent monter leur entreprise. Donc vous restez bien avec nous, à tout de suite.
Jusqu'à midi sur Vivre FM, la vie des entreprises, Alice Farcoa.
De retour dans la vie des entreprises, nous sommes toujours avec Anne Tourlière, directeur de l'offre de services à la GFIP pour un numéro de En direct avec la GFIP que nous retrouvons, je vous le rappelle, chaque second lundi du mois. Nous parlons ce matin de la création d'entreprise par des personnes en situation de handicap. Alors concrètement, Madame Tourlière, vous nous avez dit qu'il fallait en tout premier lieu, quand on a envie de créer son entreprise, se rapprocher de son conseiller, Pôle emploi, Cap emploi ou mission locale, afin de faire le point sur la viabilité de son projet, vérifier les bonnes motivations, vérifier si les difficultés liées à son handicap peuvent quand même être prises en compte par cette création d'entreprise. C'est à ce même conseiller à qui on demande une aide financière, c'est lui qui va directement solliciter la GFIP.
Non, la demande est faite par la personne qui veut créer son activité.
La personne elle-même peut solliciter la GFIP.
Elle-même sollicite la GFIP, c'est elle qui signe le dossier, qui fait une demande d'intervention, tout simplement. Il faut quand même que je vous précise qu'une personne handicapée qui veut créer son activité sera financée par la GFIP dès lors qu'elle est demandeur d'emploi, inscrite à Pôle emploi de préférence, et que bien sûr elle est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Une reconnaissance administrative, n'importe laquelle d'ailleurs, mais des reconnaissances de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Alors, est-ce qu'il est nécessaire justement alors, d'avoir soit la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, soit la AH ? Est-ce que si on a juste la AH, c'est bon ?
Alors, ça peut être bon, oui, à condition d'avoir une orientation milieu ordinaire de travail par la CTAPH. Mais on n'a pas d'obligation d'avoir une RQTH.
Ah, d'accord. On n'a pas cette obligation-là, d'accord. Et concernant les personnes qui sont atteintes de maladies invalidantes et qui bénéficient d'une pension d'invalidité, est-ce qu'elles peuvent, elles aussi, bénéficier d'une aide de la GFIP ?
Elles peuvent bénéficier d'une aide de la GFIP, oui. Alors après, c'est plutôt la pension d'invalidité qui risque de poser des problèmes. Je ne connais pas bien le dispositif, hein, mais oui, elles peuvent bénéficier d'une aide de la GFIP.
De toute façon, à partir du moment où on bénéficie d'une pension d'invalidité ou de la AH, on a tout à fait intérêt à demander la RQTH, ce qui simplifie beaucoup les démarches.
Ça simplifie les démarches. Il y a beaucoup d'aides, même de l'État d'ailleurs, qui demandent une RQTH.
Même si demander une RQTH prend du temps.
C'est pas très facile.
Bon, ça va peut-être se réduire dans les années à venir, mais alors, pour l'instant, c'est un petit peu long.
Ça s'est déjà réduit, hein, oui. Depuis la mise en place des MDPH, où c'était très difficile, et maintenant, il y a un grand progrès. En plus, beaucoup de MDPH, je dois dire, font des efforts quand, par exemple, il y a une situation de maintien dans l'emploi. La personne n'a pas forcément de reconnaissance de travailleur handicapé au début de la difficulté pour son maintien dans l'emploi.
mais beaucoup de MDPH ont des procédures accélérées dans ces cas-là pour que le SAMED puisse intervenir, pour qu'elle puisse être prise en charge au titre du maintien.
Alors, quand on crée son entreprise et qu'on demande une aide à la GFIP, qu'est-ce que ça peut financer? Ça finance ce qu'on veut, c'est-à-dire du matériel, une formation, ça finance peut-être un petit local? Alors, au début,
C'est précisé dans le plan de financement. Hein, la GFIP, quand la GFIP va donner son avis sur le dossier, sur le financement, quand elle va accepter, elle va regarder et mettre des pièces en paiement. Alors, pour valider le paiement, elle va demander, par exemple, si la personne a dit « moi, j'ai besoin d'acheter un four micro-ondes », demander la facture.
Ah oui, on est toujours sur notre fameux camion pizza.
Toujours sur le camion pizza. Ça doit être l'heure du déjeuner qui fait ça. Donc, elle va demander la facture de la friteuse, voire des fours à micro-ondes. Voilà, mais on peut aussi avoir, l'achat d'un véhicule. Alors, il faut savoir que l'aide à la création d'activité, elle est cumulable dans les aides de la GFIP, avec, par exemple, une aide à la formation, ou par exemple, avec un aménagement de la situation de travail pour le chef d'entreprise.
Oui, parce que c'est quand même important. Imaginons, effectivement, vous l'avez dit en début d'émission, une coiffeuse qui ne peut plus assurer son emploi parce qu'elle devient allergique à des produits et qui veut se reconvertir en achetant un camion pizza. Elle a peut-être besoin d'une formation, effectivement. Si elle n'a jamais fait de pizza de sa vie et qu'elle a juste, qu'elle aime ça, juste, il faut qu'elle fasse une formation. Donc la GFIP peut financer la formation et ensuite financer le four.
Financer la création d'activité donc à travers des investissements, voire financer l'aménagement de la situation de travail. Admettons que la personne, pour conduire son camion de pizza, ait besoin de, d'un siège.
Tout ça est mis dans le dossier et de toute façon...
Alors, c'est pas le même dossier, mais enfin bon, peu importe. C'est le conseiller va dire à la personne, vous pouvez faire tout ça et on...
Comment on remplit le dossier? Si on veut avoir un peu plus d'informations, on va directement sur le site de la GFIP pour savoir comment faire, quelles sont les démarches à suivre.
On va sur le site de la GFIP, on regarde et puis on s'adresse surtout, parce que beaucoup de personnes handicapées sont suivies par un Cap Emploi, on s'adresse soit à Pôle Emploi qui connaît bien le système aussi, soit à un Cap Emploi qui lui connaît parfaitement les aides diverses. Parce que la GFIP intervient en complémentarité du droit commun. Il y a beaucoup d'aides dans le droit commun aussi pour les personnes.
Justement, quelles sont les autres aides? Quels sont les autres organismes qu'on peut solliciter? Parce que 5 000 euros, c'est pas non plus énorme pour créer.
Pour la création d'activité.
Par exemple, pour acheter son camion avec 5 000 euros, comment on fait?
Il y a plusieurs types de financement. Il y a des prêts d'honneur, par exemple, qui sont prêtés, si je puis dire, par le réseau Entreprendre. Il y a évidemment les prêts bancaires, enfin ça. Il y a le prêt solidaire de l'ADI, par exemple, de France Active. Il y a pour les petits montants, il y a le dispositif de l'État NACRE. Il y a énormément, il y a quelques grandes entreprises qui font aussi des actions dans cette direction. Il y a vraiment tout un panel. Alors je ne vais pas dire que c'est formidable et qu'on va lever de quoi acheter L'Oréal, mais en tout cas il y a des prêts, même des prêts participatifs si le projet est d'envergure, un peu plus d'envergure. Il y a vraiment toutes sortes de prêts. Alors après, la difficulté pour une personne handicapée, c'est souvent d'avoir accès aux prêts, bancaires notamment, et puis d'avoir accès à une assurance. Alors à ce propos, la GFIP a une convention avec un organisme de TPA, comme on appelle, qui s'appelle
TPA,
Entrepreneur de la Cité. C'est de l'assurance, la micro-assurance aussi.
D'accord.
Voilà. Et donc la GFIP, à travers cette convention, prend en charge les deux premières années de cotisation pour les personnes handicapées. Alors ça va... Il y a la prévoyance, il y a le... Je vous dise pas de bêtises, il y a la prévoyance, il y a les multirisques professionnels, et puis il y a les frais de santé qui sont pris en charge, enfin, dont l'assurance est prise en charge par la GFIP pendant 2 ans.
Donc ça veut dire que la GFIP soutient ces courageux, parce que c'est vrai qu'il faut être quand même courageux pour créer son entreprise. C'est vraiment quelque chose que vous essayez de faire vivre de plus en plus.
Alors c'est une offre qui essaye d'être complète en tout cas. On n'en finance pas 15 000 par an, mais en tout cas, ce qu'on finance, on essaye vraiment d'avoir une offre complète et qui puisse vraiment amener les personnes qui ont perdu l'emploi à retrouver une nouvelle activité.
Il y a des domaines, il y a des secteurs, il y a des métiers qui sont plus prisés que vous soutenez plus facilement?
Alors, ce que je vous disais au départ, c'est qu'on est plutôt dans des micro-projets.
Oui.
Hein, donc, c'est vraiment des plans de financement qui sont soit plus de 60%. Les besoins de financement sont inférieurs à 15 000 euros. Donc, on est vraiment dans des petits projets. Mais en tout cas, on a évidemment tout ce qui concerne la restauration. C'est pas anodin, j'ai pris le camion pizza ou le petit commerce comme exemple. Le bâtiment aussi.
Ah oui.
Ben oui, parce que...
C'est des métiers fatigables, tous ces deux que vous venez de citer, là, en plus. C'est des métiers pas...
En plus, bon, alors en général, par exemple, à travers l'auto-entreprise, on peut facilement avoir une petite activité sur le bâtiment ou sur la micro-informatique ou sur... Bon, voilà, c'est pas beaucoup d'investissement, mais c'est la capacité de travail de la personne qui fait marcher, fonctionner l'entreprise. Alors, évidemment, après... Certains arrivent à embaucher, alors, il n'y a pas beaucoup, mais il y a des créateurs d'entreprises handicapées qui embauchent. On en a quelques-uns, alors, je ne sais plus si c'est 20%, mais en tout cas, ça marche quand même.
Voilà. Et qui embauchent des personnes handicapées ou qui embauchent des personnes valides?
Alors après, là, je n'ai pas vraiment de chiffres. Je pense qu'elles sont plus enclines, elles ont plus de facilité pour embaucher des personnes handicapées, mais je ne peux pas vous dire précisément comment ça se passe. Et puis le troisième axe du financement, en tout cas du soutien de la GFIP, puisque donc, on a vraiment l'accompagnement, la très petite assurance de la TPA, et puis on a un suivi pour les personnes handicapées qui n'est pas obligatoire, mais qui est à leur disposition dans le cadre de l'offre d'accompagnement. Si les personnes le veulent, une fois qu'elles ont créé leur activité, elles peuvent bénéficier d'une quinzaine d'heures de suivi réparties au maximum sur 3 ans. Là encore, le suivi, c'est vraiment à la carte. Pour une personne, ça va être à l'installation pendant la première année parce qu'elle a besoin d'aide. Pour d'autres, ça va être le suivi une fois par an parce que est-ce que j'ai rien oublié dans mes déclarations, hein. Pour d'autres, ça va être un appel au secours. Un jour, je me suis trompée, que sais-je. Voilà, donc c'est
vraiment, très important parce que quand on crée son entreprise, on est tout seul.
C'est très sécurisant d'avoir cette bouée de secours au cas où, ou bien tout simplement ce conseil un peu au long cours qui va se reproduire pendant 3 ans maximum. Au bout de 3 ans, on est grand.
Bon, écoutez, on arrive au terme de notre émission. J'espère qu'on a répondu en tout cas à une partie des questions. Merci beaucoup. Peut-être qu'on a donné envie à des gens qui nous écoutent de créer leur entreprise. On mettra de toute façon toutes les informations sur notre site. Merci beaucoup, Madame Tourlière, de nous avoir rendu visite ce matin. Merci, Alim, d'avoir réalisé cette émission. Si vous l'avez pris en cours de route, sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site vivrefm.com, télécharger le podcast sur vivrefm.com, rubrique La vie des entreprises. On se retrouve le mois prochain, le deuxième lundi du mois de juin, et notre sujet portera sur le maintien dans l'emploi. On vous donnera toutes les informations sur les aides que la GFIP peut apporter dans ce domaine. N'hésitez pas à poser dès maintenant toutes vos questions sur notre page Facebook ou en téléphonant au 01 56 88 40 20 dans quelques minutes les infos, puis la suite de vos programmes. À très vite pour un nouveau numéro de La Vie des Entreprises.
Vivre FM, podcast.